Chapitre 36. Luca est épuisé après nos aventures de la journée. Je le fais entrer dans la maison pendant que Rainy fait une ronde dans le jardin. Il engloutit une gamelle d'eau et s'allonge par terre dans le salon en lançant un regard plein d'envie vers ma chambre au bout du couloir. Je suis trop survoltée pour dormir. Tout me fait mal. Mes jambes, ma poitrine, mon cœur. Mais je peux pas me déconnecter aussi facilement que mon chien. Alors j'arpente la cuisine, je me sers un verre d'eau et j'inspecte le réfrigérateur à plusieurs reprises. Je devrais manger, je devrais avoir faim. Mais rien ne me tente. Je n'arrête pas de revoir mon frère disparaître dans les bois, la carabine prête à l'emploi. Lorsque Rainy rentre, je tourne en rond autour de la table de la cuisine. Elle ne dit rien, se sert aussi un verre d'eau. Dehors, il fait encore chaud et lourd, mais à l'intérieur, la climatisation a été efficace. Rainy est parcourue d'un petit frisson à cause du choc thermique, et je devine les contours de son pistolet coincé dans la ceinture de son pantacourt. Tu crois vraiment que Telly est encore une menace pour moi ? Je crois qu'on n'est jamais trop prudent. S'il voulait me tuer, il aurait pu le faire quand nous étions seuls cet après-midi. Il n'avait pas besoin d'attendre que ça se complique. Elle hausse les épaules mais ne range pas son arme. Je comprends qu'il ne s'agit pas de Telly. Du moins, vu l'attitude de mon frère cet après-midi, elle ne doit pas être trop inquiète sur ce front-là. Mais elle n'est pas rassurée pour autant. Car si ce n'est pas Telly qui a tué les victimes de la station-service, qui l'a fait ? Rien à signaler dans le jardin ? Demandai-je comme si la réponse ne m'intéressait qu'à moitié. Elle me le confirme d'un signe de tête. « Tu te sens bien ?»« Mieux que jamais, » lui assurai-je. Son expression s'adoucit. « C'est ton frère, Charla. Tu as le droit de t'inquiéter pour lui. » J'ai l'impression qu'il va arriver un drame et que si je pouvais me concentrer suffisamment et être assez intelligente, je pourrais l'éviter. Mais j'ai jamais été aussi intelligente, ni aussi chanceuse. Rainy ne dit rien. Elle s'assoit à la table. Au bout de quelques instants, je la rejoins. La plupart des gens traversent l'existence en sachant que la violence existe, mais ils s'en sentent protégés par une certaine distance, dit-elle au bout d'une minute. Ce n'est pas à eux que les malheurs arrivent. Toi, tu n'as pas cette protection, Charla. Tes 5 premières années ont été un exercice de survie continuelle, et cela avant même que ton père ne vous agresse avec un couteau. Les coups du sort n'ont rien d'abstrait pour toi, ce sont des événements bien réels. Et comme tu les as connus une fois, tu t'attends évidemment à ce que le pire se reproduise. Telly est dans le pétrin. Oui. Sa façon de porter sa carabine, de parler, il va faire quelque chose de grave. Ou alors il se fera tuer en essayant. Je suis navrée, Charla. Je fais tourner mon verre d'eau. Je ne pense pas qu'il ait tué les Duval. Tu vois, on n'a pas de vidéo de ces meurtres ni rien, mais si c'était le cas, je te parie qu'on verrait l'autre gars de la station-service. C'est lui qui a un grain de beauté au poignet. C'est lui le coupable de tout ça. Elle ne dit rien. Je m'obstine. Vu la façon dont Telly parlait des Duval, il les respectait. Il les appréciait. Il ne se serait pas retourné contre eux comme ça. On ne sait pas toujours ce qui pousse les gens au meurtre. Mais vous essayez, n'est-ce pas ? C'est le principe du profilage. Comprendre pourquoi les gens tuent et s'en servir pour identifier le meurtrier. Rainy me regarde avec gravité. L'inné est l'acquis, me dit-elle brusquement. C'est la question de fond en matière de développement de la personnalité, surtout quand il s'agit de criminels. L'individu est-il né mauvais ou bien est-ce le résultat de ce qu'il a vécu ?
Telly n'est pas né mauvais, dis-je d'un air têtu. Il s'occupait de moi.
Il est né dans une famille marquée par la violence. Il a été entouré de personnes toxicomanes et instables, élevé par un père qui considérait la brutalité comme un mode de résolution des conflits.
Peut-être que notre environnement n'a pas été très favorable, concédai-je. Mais le tempérament inné de mon frère est bon, je le sais, même quand je l'ai vu aujourd'hui. Il y a encore du Telly en lui, il faut me croire, Rainy. Il faut me croire.
Mais je te crois, ma chérie. Telly aurait pu faire toutes sortes de choses cet après-midi, et parmi celles-là, il a choisi de te rendre à nous. Je lui en suis reconnaissante.
Le silence se fait entre nous. Je voulais le sauver, finis-je par dire dans un souffle. C'est pour ça que je suis partie cet après-midi. Il fallait que je le voie, rien qu'une fois. Je voulais arranger les choses.
Je sais.
Comment tu arrives à dormir la nuit ? Rainy a un petit sourire.
Je n'y arrive pas, tu es bien placée pour le savoir.
Ta mère ? J'aborde le sujet parce qu'elle ne parle pas beaucoup de son passé, comme chacun de nous. Est-ce qu'elle te battait ?
Rainy prend quelques instants. Pas pour éluder la question, mais pour préparer sa réponse.
Ma mère pouvait être maltraitante. Elle était alcoolique, tout comme je le suis. C'est parfois héréditaire. Mais je ne pense pas qu'elle ait eu l'alcool aussi mauvais que ton père, disons. En revanche, elle n'avait pas bon goût en matière d'homme. Alors certains... Moi aussi, je sais ce que c'est de devoir s'enfermer à clé dans sa chambre la nuit.
Je suis désolée, lui dis-je en toute sincérité. Elle me prend la main sur la table.
Ça ira de mieux en mieux, Charla. Je sais que ce n'est pas l'impression que ça donne en ce moment, mais les choses iront en s'arrangeant.
J'aimerais la croire, mais elle a raison. Ce soir, c'est pas l'impression que ça donne. Son portable sonne. Elle lâche ma main pour le sortir de sa poche. Je lis sur son visage qu'il s'agit de Quincy. Mais elle ne sort pas de la pièce et reste assise en face de moi en hochant périodiquement la tête. Apparemment, Quincy a beaucoup à dire.
Entendu,
conclut-elle. Puis...
Oui, je peux faire ça. Je m'y mets tout de suite.
Sois prudent. Je t'aime.
À tout à l'heure.
Elle repose le téléphone, prend une gorgée d'eau.
Il t'a confié une mission ?
Elle confirme.
Tu te souviens de la photo du vieil homme à la fin de l'album de Telly ? Il s'avère qu'il s'agit du père de Sandra Duval, avec qui elle était brouillée.
De Sandra Duval ou d'Irene Gemetti ?
Rainy sourit. C'est là que ça devient intéressant. Non seulement Sandra a vécu sous un nom d'emprunt, mais son père, criminel patenté, également.
Est-ce que c'est pour ça qu'ils étaient brouillés ? Parce qu'elle ne voulait pas participer aux activités familiales ?
Je ne sais pas très bien. L'important, c'est que d'après Henry, le fils de Sandra, son père était revenu dans leur vie depuis peu. Il disait qu'il était en train de mourir d'un cancer et qu'il voulait se racheter. Mais toujours d'après Henry, Sandra ne voulait pas entendre parler de lui. Donc il a commencé par contacter Henry, puis Frank, et comme tout cela n'avait rien donné, sans doute ton frère aussi.
Je ne pige pas bien.
La police non plus. D'où la mission qu'on m'a confiée. Identifier le père de Sandra. Si nous en savions plus à son sujet, nous serions peut-être mieux à même de comprendre ce qu'il se passait chez les Duval jusqu'à ce matin. Et ça devrait nous renseigner sur l'auteur et les raisons de leur assassinat.
Je veux t'aider. Elle me toise. Mais comme on ne se refait pas, je lui rends l'appareil. Luca, devinant qu'il va y avoir du spectacle, se lève et s'approche à pas de loup pour être aux premières loges. Je demande. Le vrai nom de Sandra est Gemetti, n'est-ce pas ?
Rainy confirme.
Donc, la police n'a qu'à faire des recherches avec ce nom, ou même trouver l'acte de naissance d'Irene pour connaître le nom de son père.
Roy Peterson a fait cela, sans succès. Cela peut vouloir dire qu'Irene est née dans une petite clinique qui n'a pas numérisé ses archives pour les intégrer aux bases de données, ou alors que sa naissance n'a pas été enregistrée. Ça a du bon, les bases de données, mais tu sais ce qu'on dit. On n'y trouve que ce qu'on y a mis.
Si les Gemetti appartiennent réellement au milieu du banditisme, ils ont tout intérêt à se faire le plus discret possible, à garder pour eux l'essentiel des informations les concernant. Mais il y a une troisième possibilité.
Je t'écoute.
Sandra Duval est un nom d'emprunt, n'est-ce pas ? Qu'elle a inventé pour se couper de son passé.
D'accord.
Il se peut que son père en ait fait autant. Les grands criminels, il faut les voir comme des loups déguisés en agneaux. Quand il est loup...
Il s'appelle Gemetti.
Voilà. Il se livre à certaines activités, à certains comportements dont il aimerait se dissocier. Surtout que s'il réussit un peu dans les affaires, il se peut qu'il ait aussi envie de mener une vie d'agneau, de se promener librement, de profiter des fruits de son travail.
D'où le deuxième nom.
En l'occurrence, l'homme s'est présenté à Henry sous le nom de David Michael ou David Martin. Peut-être même David Michael Martin, quelque chose comme ça.
Rien que des prénoms.
Rien que des noms très fréquents, corrige Rainy.
Je comprends. Pour qu'il soit plus difficile de le retrouver. Il doit y avoir des centaines de milliers de David dans le monde. Pareil pour les Martin, les David Martin.
Exactement. Il se cache à la vue de tous en adoptant un nom si banal que personne ne le remarquera ou ne sera en mesure de le localiser s'il le souhaite.
Tu peux pas faire des recherches sur tous les David ni tous les Martin. Donc tu vas te concentrer sur Gemetti.
En fait, le sergent Roy Peterson creuse la piste Gemetti. C'est le nom du loup, or c'est Roy qui a accès au fichier de la police criminelle. Ce qui me laisse la recherche qui demande le plus de temps. partir à la pêche sur Google avec l'un des noms les plus communs de la planète.
Je fais la moue, me mords la lèvre. Je suis sûre que t'as un plan.
Si tu étais une étudiante qui devait faire cette recherche sur Internet, comment t'y prendrais-tu?
Alors, on ne peut pas se contenter de taper David, ou Martine, ou Michael. On obtiendrait beaucoup trop de résultats. Donc il faut ajouter des critères susceptibles de restreindre le champ des recherches.
Qu'est-ce que tu proposerais?
Que savons-nous de ce type? Est-ce qu'il est de Bakersville comme Sandra?
En fait, on pense qu'il vit dans la région de Portland. Disons dans l'Oregon, par sécurité.
Bon, donc on veut une combinaison des David, Michael et Martine qui vivent dans l'Oregon. La liste va être longue. Elle confirme. Il est vieux? Les vieux David, Michael, Martine qui vivent dans l'Oregon? Rainy sourit.
Vieux est un terme trop général. Idéalement, il nous faudrait une année de naissance. Ça, ce serait très précis. Malheureusement...
Tu ne connais pas son année de naissance?
Non, on pourrait essayer une fourchette, mais d'après mon expérience, le résultat n'est pas beau à voir. Surtout quand on découvre que l'année dont on avait besoin se situait juste en dehors de la fourchette.
Je me renfrogne. Comment vous arrivez à retrouver des gens, Quincy et toi?
Comme nous sommes en train de le faire, en échangeant des idées.
Nous gardons toutes les deux le silence un instant. Rainy est la première à reprendre la parole.
Il est malade. Du moins, c'est ce qu'il a laissé entendre au fils Duval. Malade et en train de mourir d'un cancer.
Je me réjouis. Ça, c'est une information précise.
Oui et non. Les dossiers des patients sont couverts par le secret médical. C'est vrai qu'il y a plusieurs hôpitaux de pointe contre le cancer dans l'État. Il y a des chances que notre David ait consulté dans l'un d'eux, mais nous n'avons pas accès à cette information. Il nous faut des données publiques.
Est-ce qu'il est riche?
On nous a laissé entendre qu'il était bon dans sa partie.
Les gens riches ne se contentent pas d'être malades dans leur coin. Je le sais, je l'ai vu à la télé. Ils organisent des galas, des collectes de fonds, des campagnes sur Twitter, plein de trucs. Ils font de leur maladie un spectacle médiatique. Je crois un instant que Rainy va écarter mon idée, mais soudain...
Les galas, murmure-t-elle. Il y en a un à Portland. La plus grande soirée de collecte de fonds de l'année, consacrée à la lutte contre le cancer. On y voit les célébrités locales, les riches d'entre les riches. Suis-moi.
Elle m'emmène dans le bureau. L'événement est à marquer d'une pierre blanche. Je suis enfin admise dans le Saint des Saints. Mais c'est l'enthousiasme que j'ai entendu dans la voix de Rainy qui retient mon attention. Elle va droit vers l'ordinateur, lance le moteur de recherche, et en un rien de temps, l'écran se couvre d'une mosaïque d'images. Le gala contre le cancer, One Night, One Fight, est un dîner qui coûte 50 000 $ la table, ce qui en fait l'une des soirées les plus chics de Portland. Bien sûr, il y a des photographes dans tous les coins pour immortaliser ces instants glamour et mettre en ligne des photos de manière à encourager les généreux donateurs pour l'année suivante. Or, si nous ne connaissons pas le vrai nom du père de Sandra, nous savons à quoi il ressemble. Donc, il suffit de nous mettre en chasse en ouvrant l'œil. Qu'est-ce que tu dirais pour la date? On ne sait pas exactement quand David est tombé malade, mais vu comme il a l'air frêle sur la photo, je dirais que ça fait bien quelques années. Donc, on va commencer il y a 5 ans et avancer dans le temps en espérant avoir de la chance. J'approuve. Rainy tape les termes de la recherche et l'écran tout entier se remplit d'un tourbillon étincelant de robes à paillettes, bulles de champagne et boules à facettes. One night, one fight, il y a 5 ans. J'en ai la tête qui tourne rien qu'à regarder toutes ces images. Or, nous avons des pages et des pages, plusieurs années à passer en revue.
Représente-toi le vieil homme de la photo dans ta tête, me conseille Rainy. Focalise-toi sur un détail concret. L'arête du nez, la distance entre les deux yeux. C'est ce visage que nous cherchons. Ne te laisse pas distraire par le reste.
Nous travaillons lentement. Pas le choix. Je m'aperçois que dès que j'accélère, les images se brouillent et je ne vois plus les visages. Mon attention est attirée par telle robe, telle boucle d'oreille. Rainy a raison. On se laisse facilement distraire. Après avoir fait défiler toutes les photos d'il y a 5 ans, Rainy est obligée de télécharger celle du père de Sandra sur son téléphone pour rafraîchir l'image mentale que nous en avons. Elle l'agrandit jusqu'à ce que nous ne voyons plus que son visage. Avec le grossissement, il paraît flou et déformé, mais Rainy m'apprend les ficelles du métier. Sur une feuille de papier, nous esquissons le contour de sa mâchoire, la forme de son nez, de ses yeux et de ses lèvres. Pas un visage, mais ses grandes lignes.
Voilà l'homme que nous cherchons, me rappelle-t-elle. Ne t'occupe pas des cheveux, des tenues, des bijoux, du décor. Voilà les éléments qui nous permettront de l'identifier. One night, one fight, il y a 4 ans.
Elle charge les images. Nous reprenons notre traque. Jamais j'aurais pensé qu'autant de gens aimaient porter des paillettes. Il y a même des nœuds papillons à paillettes.
Il y a 3 ans.
Rainy nous apporte des gouttes pour les yeux. Les images déteignent les unes sur les autres. J'en peux plus d'être nue de soirée, des cheveux bouffants et du fard à paupières bleues. J'ai aussi un peu faim à force de voir des images de nourriture. Et en même temps la nausée à cause de toutes ces grosses taches de couleur. Je peux arrêter, me dit Rainy, me reposer un peu. Mais je devine qu'elle-même va continuer, alors je suis bien décidée à en faire autant. C'est comme le jeu où est Charlie, et nous n'avons pas encore trouvé notre personnage. Pas moyen d'aller se coucher avant d'avoir gagné.
One night, one fight, il y a 2 ans.
Rainy charge les photos. Nous nous penchons toutes les deux vers l'écran pour le scruter, commençons à descendre lentement sur la page. Je le vois. Pas tout de suite, il est sur le côté de l'image. Il porte un smoking noir, comme les autres hommes. Mais c'est sa main autour du verre de champagne qui attire mon attention. Une main de vieux sous les lumières vives de la fête. La photo ne montre que son profil, mais je regarde son nez, comme Rainy me l'a appris. Et je sais aussitôt que c'est lui. Là, regarde, c'est lui.
Rainy suit mon doigt qui pointe l'image sur l'écran.
Possible, reconnaît-elle. Elle double-clique sur la photo, l'agrandit. Le vieillard fait partie d'un groupe dont les membres se serrent les uns contre les autres. Il se trouve à côté d'un type sérieux qui a l'air en meilleure forme et d'un autre encore plus jeune, une jolie fille au bras. Ils sont tous ensemble, je pense. À leur façon de se tenir si proches, ils ne viennent pas de se rencontrer. Ils se connaissent déjà. Sa famille. Mais Rainy ne regarde plus le vieil homme. Son regard s'est porté sur le plus jeune. Elle tique. Cligne des yeux. Tique encore.
Je jurerais l'avoir déjà vu quelque part.
Comment il s'appelle ? Comment il s'appelle ?
Je brûle de le savoir.
Rainy lit la légende.
David Michael Martin.
Vraiment un nom idéal pour se fondre dans le paysage.
Président de GMB Enterprises,
continue-t-elle, puis... Elle s'interrompt, quitte l'écran du regard et se tourne vers moi en ouvrant de grands yeux.
Charla, je connais vraiment le jeune homme. On a commencé la journée en contemplant sa photo. C'est...
Elle relit attentivement la légende, mais les noms des autres membres du groupe ne sont pas donnés.
C'est l'une des 2 victimes de la station-service.
Je comprends le sous-entendu. Il n'a pas été tué par hasard.
Non. On a envoyé quelqu'un là-bas pour le descendre. D'abord Sandra Duval, la fille de David Michael Martin. Ensuite cet homme, son... complice. Il ne s'agit pas de meurtre aveugle.
Rainy attrape déjà son téléphone pour appeler Quincy. Mais alors, qu'est-ce que c'est ?
Je ne sais pas, c'est plus grave, plus ciblé.
Elle me regarde, téléphone à l'oreille, et je sais à quoi elle pense. Les photos de moi, mon visage vu comme à travers la lunette d'un fusil. Et là, il faut se rendre à l'évidence. Je suis bien la fille de ma mère d'adoption. Parce que pendant qu'elle se demande comment elle va pouvoir me protéger, moi je me demande comment je vais pouvoir sortir Telly de ce piège. Mais aucune de nous deux n'a la réponse.